Il y avait un homme, il y a quelque temps, un pasteur en Suisse alémanique. Cet homme, eh bien, était comme un petit peu tourmenté dans son cœur, parce qu'il sentait qu'il devait aller dans un lieu, mais dans lequel les pasteurs n'ont pas tellement l'habitude d'aller, une discothèque à quelques kilomètres de son domicile. Et il résistait à cette pensée-là en disant « Que vont penser les gens ?» Si jamais quelqu'un me voit par là-bas. Mais l'appel se faisait de plus en plus pressant, et il sentait bien que c'était l'Esprit de Dieu qui agissait dans son cœur pour, eh bien, lui parler, certainement d'une âme qui avait besoin d'être sauvée, d'un homme, d'une femme peut-être, qui avait besoin du salut de Dieu. Il a résisté, puis à un moment donné, sa femme, en le voyant toujours tourner dans le lit, de gauche à droite, elle a dit, écoute, elle lui a mis un grand coup de pied, puis elle a dit, maintenant tu vas partir, tu vas obéir à Dieu parce qu'il y en a marre, moi j'arrive pas à dormir. Et cet homme, ce pasteur, s'est donc rendu à la discothèque. Il a commencé à observer les lieux. Et quand il est arrivé, il y avait une petite porte vitrée avec un lieu assez petit où il y avait un disque jockey. Et ce disque jockey était en train de regarder une pochette de disques avec une cage. La pochette de disques contenait une cage. Et au-delà de la cage, on voyait tout l'univers, les galaxies. Et on voyait un homme prisonnier dans cette cage. Et il a compris immédiatement le message qu'il devait annoncer à cet homme. Il est donc entré dans le lieu où le disque jockey exerçait sa profession. Et il a pu discuter avec lui, et cet homme, à 4 heures du matin, était à genoux par terre, convaincu par le Saint-Esprit d'être un pécheur, et donnant sa vie à Jésus-Christ, ne sachant pas ce qu'il allait devenir le lendemain, car il savait déjà dans son cœur qu'il devait abandonner son métier de disc jockey, un métier de nuit, pour adopter un autre métier. Mais il savait déjà dans son cœur que Dieu allait le conduire, que Dieu allait le bénir, et lui accorder ce qu'il avait besoin. Ce qui s'était passé, c'est que cet homme ne connaissait pas le sens de sa vie, se demandait pourquoi il faisait ce qu'il faisait, il ne savait pas où il allait finalement, et il se demandait pourquoi il existait, et en regardant cette pochette de disque qu'il contemplait attentivement, eh bien, il se disait, cet homme dans la cage, c'est moi, au sein d'une galaxie infinie, un homme, une simple créature, prisonnier, d'une condition, prisonnier, d'une ignorance, prisonnier, eh bien d'une cage, finalement. Et cet homme, en Jésus-Christ, dans l'évangile de Jésus-Christ qui lui a été prêché par ce pasteur, a trouvé la liberté hors de cette cage, a compris le sens de sa vie et est entré dans sa destinée. Alléluia. Nous devons comprendre ce matin que l'homme est prisonnier d'une condition. Il est d'abord prisonnier d'une première condition qui s'appelle le péché, un mot qu'on n'aime plus beaucoup entendre de nos jours, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Mais le péché n'est pas les fautes qu'on commet, le péché c'est pas un crime, le péché c'est pas le vol, ça ce sont les conséquences de ce qu'est le péché. Le péché c'est une puissance d'éloignement, c'est la puissance avec laquelle nous naissons tous avec un handicap. La Bible dit que tous sont nés pécheurs et sont destitués de la gloire de la présence de Dieu. Quand nous naissons loin de Dieu. Nous sommes prisonniers d'une nature qui ne nous pousse pas à nous tourner vers Dieu, mais d'une nature qui nous pousse au contraire, avec tout le système de pensée de ce monde, à nous détourner de lui, même si nous ne savons pas pourquoi. Vendredi, je discutais avec deux hommes un peu qui jouaient les caïds. Il y en a un qui m'a dit « Moi, je suis athée ». Alors je l'ai un peu plaisanté pour ne pas du tout aller dans son jeu et aller à l'affrontement, mais je lui dis « Quoi, vous ne mettez pas les barreautés ?» Et puis finalement, il s'est détendu parce qu'on a rigolé. Et puis, à un moment donné, avec un autre, nous avons parlé eh bien, de la vie en général, les détresses, les galères, etc. Et puis, à un moment donné, eh bien... Cet homme qui disait « Ouais, on n'est que des numéros, on n'est que des matricules pour cette société », ben je lui ai dit « Voyez, c'est le fruit d'une société athée, monsieur. une société qui a détourné sa pensée de Dieu. Parce que voyez ici, vous n'êtes pas un numéro. Tout à l'heure, on a cité votre nom, on a cité votre condition, et vous recevez de la nourriture et des biens, des vivres, pour la personne que vous êtes, pas pour un numéro. Et là, le gars, il a tilté, et il a commencé à demander plus. J'ai pu donner mon témoignage, parce qu'au début, il me prenait pour un enfant de cœur, et j'ai vu qu'ils étaient touchés, ces deux gars. Il y en a même un qui m'a dit qu'il allait venir au culte. Alors, prions pour ces gens, prions pour ces personnes. Vous savez, il faut se faire d'abord des amis des gens pour leur parler. Et quand on entre dans la condition de quelqu'un, quand on fait un petit bout de chemin avec lui, au bout d'un quart d'heure, vous savez, on peut lui annoncer l'évangile facilement, avec des mots simples et sans saouler ni quoi que ce soit, mais en apportant tout ce qui est vital, tout ce qui est bénéfique, et ce qui va permettre à la personne de réfléchir et de se placer à un moment donné devant Dieu dans sa vie. Et cet homme dans cette cage au milieu de l'univers symbolisait bien cette réalité de l'homme sans Dieu, de l'homme qui ne connaît pas de sens à sa vie, l'homme qui est errant. Une puissance d'éloignement. Le péché est une puissance, un véritable cancer qui nous éloigne de Dieu. Tous sont péchés, c'est universel. Tous sont péchés et sont destitués de la gloire, de la présence de Dieu. Le péché est une puissance d'éloignement, elle nous éloigne de Dieu. Et bien entendu, elle engendre des comportements, elle engendre des pensées, elle engendre des actes, elle engendre des paroles destructrices, cette puissance d'égarement qu'on appelle les péchés, cette fois-ci, les péchés, les fautes. La parole de Dieu nous offre une autre alternative, elle nous offre un choix. Il y a un grand « mais » dans la Bible. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendus proches par le sang du Christ. Nous l'avons chanté. La seule chose qui puisse nous rapprocher de Dieu, c'est de croire dans le sang versé de Christ, c'est-à-dire de croire dans l'œuvre de Jésus sur la croix qui a donné sa vie pour chacun de nous, pour que nous soyons rapprochés de Dieu. Que cette puissance d'éloignement, cette puissance à laquelle l'homme ne peut rien faire, l'homme est impuissant à vaincre cette puissance, la seule chose qui puisse vaincre cette puissance, c'est le sang du Christ qui a été versé pour cette seule et unique destination, pour ce seul objectif, rapprocher les créatures perdues, rapprocher les créatures qui étaient loin de Dieu, du Père. Au travers de ce sang. Alléluia. Le péché, c'est aussi une puissance d'errance. C'est la puissance qui nous perd. C'est la puissance qui nous jette loin de Dieu et de la destinée qui est la nôtre. Et la destinée de l'homme qui pratique le péché, la destinée de l'homme qui reste loin de Dieu, c'est une éternité sans Dieu. C'est ce que la Bible appelle l'enfer. Et c'est un lieu de tourment, un lieu de souffrance, un lieu pour ceux qui n'ont pas fait le bon choix. C'est pour ça que le péché est cette puissance d'errance qui nous conduit vers une éternité sans Dieu. Errer, c'est marcher, ça et là, sans but, sans destination, au hasard en quelque sorte. Et combien de gens vous disent « Oh, c'est le hasard !» Comment la terre a été créée ? Par hasard ! Et toi ? Bah, moi aussi, j'ai été créé par hasard. Mais parfois, on a été créé stupide, est-ce par hasard ? Il y a une stupidité liée au péché. La Bible dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. » Être insensé, c'est être stupide. Il y a un moment où il y a des gens qui sont stupides dans le sens où ils veulent rester dans leur pensée, dans leur forteresse de raisonnement. Et nous avons besoin, évidemment, nous chrétiens, de prier pour de telles personnes pour que ce raisonnement soit cassé. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse casser dans le cœur des gens les raisonnements faux, les raisonnements qui empêchent la compréhension qui permet d'entrer dans le plan de Dieu pour notre vie. Et c'est ainsi que Caïn, par exemple, celui qui a tué son frère Abel, il a fini par se retrouver errant après avoir tué son frère parce qu'il ne s'est pas repenti, parce qu'il n'a pas marché dans les voies de Dieu. Et combien d'hommes, combien de femmes, combien d'êtres humains finissent dans l'errance ? Des pauvres âmes en peine qui cherchent quelque chose qu'ils ont perdu. Beaucoup de gens oisifs, inoccupés, dépressifs, des morts-vivants, des zombies, qui cherchent des substituts pour Dieu, qui cherchent des substituts pour le bonheur. Certains cherchent dans les loisirs, certains cherchent dans les divertissements, certains cherchent dans l'alcool, certains cherchent dans un sexe, une sexualité effrénée, sans frein. Certains se noient dans le travail. Certains sont dans l'amour du luxe, l'amour de l'argent, croyant pouvoir trouver un substitut à ce qui pourrait remplir leur âme, leur esprit, leur cœur, et qui a pour nom Jésus-Christ. La Bible nous dit « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. » Il y a souvent des gens qui vous disent « Ah, moi je n'ai ni Dieu ni loi. » Eh bien, si tu as un Dieu et tu as une loi, il y a un Dieu qui s'appelle Satan, le Dieu de ce siècle, dit l'apôtre Paul, qui a aveuglé l'intelligence des hommes afin qu'ils ne voient pas resplendir la gloire de l'Évangile dans la personne de Christ. Et de même qu'ils ont un Dieu sans le savoir, ils ont une loi qui s'appelle la loi du péché et de la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tous les hommes passent par la mort parce que tous sont pécheurs. Le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est la mort physique, mais c'est d'abord aussi la mort spirituelle, puisque nous naissons spirituellement morts. Quand nous entrons dans ce monde, nous sommes spirituellement morts. C'est ce que veut dire être pécheur. Naître pécheur, c'est être spirituellement mort, spirituellement sans Dieu. Et de sorte que le pécheur qui continue toute sa vie dans ce choix et dans cette voie, il finit aussi dans la mort éternelle, c'est-à-dire la privation éternelle de Dieu dans un monde qui s'appelle l'au-delà. Certains sont tellement dans l'errance qu'ils vont vers des sentiers religieux. Alors ils se disent religieux, ils se disent croyants. Ils pratiquent des œuvres et ils croient que ces œuvres vont les sauver. Certains font la prière 5 fois par jour. Ils croient qu'ils vont peut-être, ils ne sont même pas sûrs, aller au paradis parce qu'ils ont prié 5 fois. D'autres sont dans des religions orientales, un luxe que peuvent se payer les personnes de l'Occident, parce que ceux qui vivent dans ces pays orientaux vivent dans la misère à cause du bouddhisme, de l'hindouisme avec ses castes. Mais ici en France, on peut se permettre d'être bouddhiste et hindouiste, ça ne nous engage pas à grand-chose, et ça nous donne une sorte d'orientalisme, d'ésotérisme qu'on aime bien par ici en France. On refuse des choses spirituelles de Dieu, mais on est très ouvert aux choses spirituelles orientales, ne sachant pas d'où elles viennent. Vous avez des gens qui sont magnétiseurs, on en a un des fois qui vient là, des guérisseurs. Quand vous leur posez la question d'où vient ton don, d'où vient la source de ton pouvoir, ils ne savent même pas répondre. Et ils font des choses sans savoir avec quoi ils jouent. Et c'est pour ça que beaucoup sont tombés dans des choses occultes. J'ai connu un homme comme cela, toute sa famille, pas lui, mais toute sa famille a connu des déboires, des choses terribles, parce qu'il avait une porte ouverte au monde occulte à travers ce don de la radiesthésie, par exemple. C'est l'occultisme. Donc des gens se tournent vers l'occultisme, croyant trouver un sens à leur vie. Moi, j'avais pensé à un moment trouver le sens de ma vie dans les arts martiaux. Je me suis vite rendu compte que ça ne remplissait rien du tout. Ça donne le moyen de se défendre, ça donne une sorte d'assurance, mais c'est tout. Mais de l'assurance juste pour se défendre, mais ça ne donne pas de l'assurance dans la vie et ça ne remplit pas le cœur. Le philosophe Pascal a dit que chaque homme avait en lui un vide en forme de Dieu. Et c'est bien ça le problème de l'humanité. Nous avons dans notre cœur une place pour Dieu. Et si nous laissons Dieu prendre cette place, alors ça va être extraordinaire pour nous. Je me souviens que notre frère Jean Fontaine disait toujours que la vie avait 2 faces, comme une pièce ou une médaille. Une face sombre, une face lumineuse. La face sombre, c'est la face qui est la vie dans le péché, sans Dieu. Et l'autre face, c'est la vie avec Dieu. C'est une face lumineuse. Le péché est une puissance de dépravation. En Suède, il y a quelques années, plusieurs chrétiens étaient allés en Suède pour faire un camp d'évangélisation. Et ils ont été très étonnés parce qu'on avait connu la Suède comme étant un pays qui avait connu un réveil spirituel avec beaucoup d'églises évangéliques et tout. Mais tout ça s'est refroidi au fil des ans. Et aujourd'hui, ce qui est notoire en Suède, ce n'est pas le nombre d'églises, c'est le nombre d'alcooliques. C'est un pays qui a sombré dans l'alcoolisme, dans divers sentiers aussi de la sexualité, un pays qui est complètement ravagé par l'alcool. Ce n'est pas forcément un pays enviable, il a des beaux fjords, mais par contre, il y a l'alcoolisme. C'est une plaie dans ce pays. Et les églises se sont refroidies, sont tombées dans un certain formalisme. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 29, pour décrire la puissance de dépravation qu'apporte le péché, l'apôtre Paul dira « Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de perversité, de cupidité, de méchanceté, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de dépravation, diffamateurs. » C'est un peu l'image de notre société actuelle, prête à diffamer, à détruire des carrières, à détruire des vies pour atteindre le pouvoir. Et à petit niveau, des fois c'est pour atteindre une ambition inassouvie. Combien de gens ont tué des voisins parce qu'ils voulaient avoir ce que le voisin avait. Des gens suscitent la jalousie autour d'eux et peuvent finir mal. Le péché est une puissance de mort et de rébellion. Nous avons vu le salaire du péché, c'est la mort. Et l'apôtre Paul, quand il décrit la situation qui était celle des chrétiens d'Éphèse avant de connaître Jésus-Christ, il dira « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Si nous résumons bien la chose, l'homme est prisonnier d'une puissance qui l'éloigne de Dieu, d'une puissance qui le fait errer loin de Dieu, d'une puissance de dépravation qui le pousse vers le bas, et d'une puissance de mort, une pulsion de mort et de rébellion qui le fait s'éloigner de Dieu. Il y a certainement une situation intermédiaire qui est bien illustrée par un psaume qui a été écrit, dans le psaume 142, verset 7, où il y a cet homme qui dit « Tire mon âme de sa prison ». Et je crois que chaque être humain peut faire cette prière. Souvent, nous invitons les gens à pas forcément prier dans l'église, mais faites cette expérience personnelle. Comme ça, vous ne direz pas qu'on vous a influencé. Vous êtes chez vous et vous voulez savoir si Dieu existe, si Dieu s'occupe de vous. Eh bien, vous vous agenouillez chez vous, vous faites comme vous voulez, mais vous priez, vous criez à Dieu et Dieu va vous répondre dans les jours qui viendront, peut-être même immédiatement. Mais en tout cas, cet homme a dit « Tire mon âme de sa prison ». Et c'est une prière que nous pouvons faire. Seigneur, si tu es vraiment Dieu, fais-moi connaître la vérité. Fais-moi, confirme-moi que ce que j'ai entendu est la vérité. Viens en moi, viens changer ma vie, viens transformer ma vie. Tous ceux qui ont fait cette prière honnêtement, sincèrement, authentiquement, ont connu une réponse à cette prière. Quelles que soient leurs conditions, des gens dans une prison sordide, ayant commis des choses infâmes, des gens bien élevés, des gens dans la souffrance, tous, eh bien, ont connu une réponse à cette prière. Et d'ailleurs, la suite du verset « Tire mon âme de sa prison » dit « Afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Je me souviens toujours de cet homme, Nicky Cruz, qui est sorti des bas-fonds de New York, qui très jeune a été voué à la sorcellerie par sa mère. Son père était un sorcier également. Et cet homme vivait dans les ténèbres, dans la haine. Il n'a jamais été aimé. Sa mère l'avait traité de fils de Satan. Imaginez pour un petit garçon d'entendre de telles paroles. Il y en a qui commettent des crimes pour moins que ça. Et lui, eh bien, s'est retrouvé plongé dans les gangs, dans le monde des gangs, dans le monde de la drogue, dans le monde de la violence, jusqu'à ce qu'un pasteur malingre, tout maigre, ait le courage de se rendre dans les bas-fonds pour prêcher l'évangile, armé de la présence de Jésus-Christ près de lui, et de toucher tous ces jeunes qui étaient là. Et cet homme, Nicky Cruz, un des pires de l'époque, va donner sa vie à Christ. Et quand il témoigne, il dira « Aujourd'hui, je sais pourquoi je suis né à la louange de la gloire de Dieu. » Ce n'était pas gagné d'avance quand on connaît le personnage. Extraordinaire que cet homme de Porto Rico, arrivé très jeune aux États-Unis, dans les quartiers les pires de Brooklyn, eh bien, qui a rencontré Jésus-Christ dans les bas-fonds. Dieu est partout, chers amis. Dieu est capable de nous atteindre dans notre souffrance. Dieu est capable de nous atteindre jusqu'en enfer s'il le fallait. Et d'ailleurs, il l'a fait en mourant sur la croix pour nous. Il y a un grand mets de Dieu, c'est le mets de sa miséricorde. L'apôtre Paul dira, par rapport à cette condition que nous venons d'énumérer, il va dire la suite, et il dit, vous étiez morts par vos fautes, etc. Oui, mais, il y a un grand mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. L'homme, la femme qui se tourne vers Christ, qui reçoit la révélation de Jésus-Christ dans sa vie, l'homme, la femme qui accepte Christ dans sa vie devient une nouvelle créature, une personne nouvelle et une vie nouvelle est implantée en lui, en elle, de sorte qu'il va pouvoir marcher en nouveauté de vie, nous dit la parole de Dieu. Dieu ne pouvait pas se résoudre à laisser l'homme dans cette condition. Alors il répond à la prière de tout homme qui lève ses yeux vers le ciel et qui lui dit « Tire mon âme de sa prison ». Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Pour cela, il est venu donner sa vie. La Bible dit qu'il a donné sa vie en rançon pour chacun de nous, sur la croix du calvaire. Pour que notre âme soit rachetée, il fallait que sa vie à lui soit donnée en rançon. Nous étions condamnés, et c'est lui, alors que nous étions voués à la mort éternelle, à l'enfer, c'est lui qui a porté notre souffrance. C'est lui qui a porté l'injustice que nous commettons. C'est lui qui a porté notre condamnation, la peine de notre péché, la peine que nous méritions. Il a porté tout cela à notre place sur la croix. Il a été frappé par le Dieu juste et saint qui a détourné son regard de lui pour la première fois depuis l'existence éternelle du Fils. Tout cela pour que si nous croyons en lui, sa justice nous soit transférée. Nous avons lu que tous les hommes sont pécheurs, naissent pécheurs et sont destitués de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit comme réponse, Dieu apporte comme réponse, Dieu a tellement aimé le monde, c'est-à-dire dans sa globalité, qu'il a donné Jésus-Christ, le Fils unique, afin que quiconque, cette fois-ci on plonge dans le monde global pour aller jusqu'à l'individu, quiconque, pour que Jean-Charles, pour que Annie, pour que Michel, pour que Zita, pour que Monique et tous ceux qui sont là, croient en lui et ne soient pas perdus pour l'éternité, mais vivent éternellement auprès de lui, évidemment, sous-entendu. Gloire à Dieu. Ça, c'est le verset central de la Bible, le résumé de l'amour de Dieu. Dieu a prouvé son amour en ce qu'il a donné son Fils pour chacun d'entre nous. Et la justice de Christ, puisque Jésus était sans tache, Jésus était sans faute, nous a été transférée. Et Dieu nous voit juste comme il voit Jésus. C'est ça qui est extraordinaire. La justice de Christ nous a été imputée, comme si quelqu'un aujourd'hui faisait une dépense, mais n'a pas l'argent pour payer, et vient quelqu'un, une bonne âme charitable, et qui dit « Attends, je vais faire un chèque à ta place. » Et la dépense lui est alors imputée. Eh bien, c'est pareil. Jésus a payé le prix, et il a imputé la dépense. Enfin, Dieu a payé le prix en Jésus-Christ, et Dieu a imputé la dépense sur Jésus pour que nous n'ayons rien à payer. Et tous ceux qui veulent gagner leur salut font fausse route. Tous ceux qui veulent mériter leur salut par des œuvres ou en faisant ceci ou en faisant cela, en étant hyperactifs, en marchant sur les genoux, en marchant sur la tête, en applaudissant des deux pieds, font fausse route. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Christ a tout accompli. D'ailleurs, sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». C'est une des paroles, des sept paroles de Jésus sur la croix. Quand nous croyons en Jésus, nous devenons à ses yeux aussi innocents que Jésus lui-même, car il ne voit pas notre justice à nous, mais il voit celle de Christ. Et c'est pour ça qu'il a versé son sang précieux pour chaque âme prisonnière du péché. Face à la puissance qui peut-être nous a tenus ou nous tient encore asservis, eh bien la plus grande puissance de l'univers s'est dressée. Elle s'est dressée contre le mal, elle s'est dressée contre Satan, elle s'est dressée contre le péché, contre tout ce qui pouvait éloigner ces créatures de lui. La plus grande puissance de l'univers s'est dressée, indignée par l'injustice, indignée par le mal. Cette puissance qui est à l'origine de la création, une puissance motivée par un amour éternel, une compassion infinie pour les créatures qu'elle a créées. Et Jésus est le seul ami qui puisse changer notre vie, la métamorphoser et nous rendre aussi notre dignité. Combien d'hommes, de femmes ont retrouvé la dignité après avoir connu le Seigneur ? Certains d'entre nous pourraient en témoigner ce matin. Des hommes, des femmes qui étaient esclaves de telle ou telle passion, de telle ou telle vice, qui ont été libérés, délivrés et qui ont retrouvé leur dignité. Et face à la puissance d'éloignement, Dieu a envoyé une puissance de rapprochement. Nous l'avons vu, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendus proches par le sang du Christ. Le sang versé par Jésus nous permet de nous approcher de Dieu et d'être ainsi pardonnés de nos péchés. Étant pardonnés de nos péchés, nous pouvons alors nous approcher de Dieu. Nous connaissons tous l'histoire du fils prodigue, ce garçon qui a brûlé son héritage en quelque sorte, qui a gaspillé ses biens et qui s'est retrouvé dans la dépravation. Après avoir erré, il s'est trouvé dans la dépravation. Il s'est retrouvé parmi les cochons en train de manger des caroubes. Il avait que ça pour nourriture. Quand d'un seul coup, dans son cœur a commencé un mouvement, « J'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et alors qu'il faisait cette démarche qu'on appelle la repentance, faire demi-tour sur sa vie et dire « C'est mon Père qui avait raison, c'est mon Père céleste aussi qui a raison, c'est sa parole qui a raison. » Il est retourné vers son Père. Et son Père ne lui a pas demandé de faire ceci, cela, des courbettes ou ceci, cela. Il est venu parce qu'il l'attendait depuis tellement longtemps et dans son amour et dans sa compassion. Il a couru vers son fils, l'a empoigné et l'autre, le fils, il essaie de faire « Mon Père, j'ai péché, mais taisez-vous, tais-toi. » Et « Allez, on fait une fête pour mon fils qui est revenu, il était mort et maintenant il est vivant !» Et une grande fête a eu lieu, on a tué le veau gras, on a fait un grand méchoui, et tous se sont réjouis, sauf un d'ailleurs. Mais son frère est né. Mais quelle joie et quelle image du salut, quelle image du pardon de nos péchés, quelle image de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Face à la puissance d'errance d'une vie sans but, la plus grande puissance de l'univers a envoyé une puissance de certitude. Jésus dira « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, tandis qu'à présent je quitte le monde et je vais au Père. » Il savait où il allait, lui, Jésus. C'est pour ça qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Parce qu'il sait où il va et il sait où il nous mène. Il a dit « Je vous ai préparé une place afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Amen. Le brigand sur la croix n'avait aucune certitude et Jésus va lui en donner une à la dernière extrémité, au dernier moment, alors que cet homme était condamné à mort pour ses crimes et qu'il était sur la croix qui était à côté de Jésus. Eh bien, Jésus va lui dire, parce que évidemment, il y a eu un travail dans le cœur de cet homme auparavant avec un autre, ils insultaient le Christ, ils insultaient Jésus, mais il s'est passé quelque chose. Il a commencé certainement à considérer la manière dont Jésus réagissait sur la croix, les paroles que Jésus prononçait sur la croix, la gloire qui était en lui malgré la souffrance. Et alors il a commencé à dire « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Et Jésus lui a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Premier homme à avoir été introduit à la suite de Jésus dans le paradis, et c'était un brigand. Ça c'est les aumôniers en prison, ils aiment ça ce verset. Face à la puissance d'errance, une puissance de certitude. Et nous savons où nous allons après la mort parce que nous savons qui nous avons cru et nous savons que nous irons avec le Seigneur, comme le brigand. L'apôtre Jean dira « Je vous ai écrit tout cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui avez la foi au nom du Fils de Dieu. » Certitude, afin que vous sachiez. C'est ça la certitude, l'assurance. Dans 1 Corinthiens 15, verset 10, Paul dira « Mais ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu, et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine. » Face à une puissance d'errance, la certitude. Face à la vanité, c'est-à-dire à ce qui est vide de sens, un sens profond, une destinée, un but, le plan de Dieu pour notre vie. Et face à la puissance de dépravation, Dieu a envoyé une puissance de purification. Il est celui qui purifie les hommes, les femmes, grâce au sang de Jésus, qui purifie tout homme de tout péché, de toute iniquité. Et l'apôtre Jean dira encore, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Face à la puissance de la mort, face à la puissance de la rébellion, face à la puissance de la mort, eh bien, la plus grande puissance de l'univers a envoyé la résurrection et la soumission à l'autorité divine par amour. Nous nous sommes soumis à Dieu non pas par obligation, mais nous nous soumettons à Dieu par amour pour lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes de leurs fautes et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Jésus pourra dire à quelqu'un, à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. » Nous voulons aussi, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, être comme ces personnes dont il est parlé dans le livre de l'Apocalypse qui suivent l'agneau partout où il va. Quelle puissance de soumission à l'autorité du Seigneur, cet agneau qui a ôté le péché du monde. Quelle soumission il peut y avoir de le suivre partout où il va. S'il nous conduit à tel endroit, de telle manière, de telle façon, nous le suivons, ça montre notre soumission à Christ. Résurrection, soumission, obéissance, par amour envers celui qui nous a sauvés. Oui, tout homme est finalement prisonnier de la même condition. Tous prennent part à la même condition. Tous naissent prisonniers du péché qui nous éloigne de Dieu, qui nous fait errer, qui nous déprave, qui nous rend rebelles, qui nous voue à la mort éternelle. Mais Dieu a envoyé son Christ, le plus grand champion de l'univers, la plus grande puissance, le Verbe incarné, Jésus, pour élargir les prisonniers, pour libérer les prisonniers que nous étions. Ceux qui étaient dépravés, eh bien, sont purifiés et mènent une vie saine, ne pratiquent plus ce qu'ils pratiquaient auparavant parce qu'ils en ont été libérés. Les vices, les passions, c'est loin derrière pour le chrétien qui a donné sa vie à celui qui l'a libéré. Jésus dira de lui-même à travers un passage de l'Ancien Testament qui parle de lui, passage prophétique, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. » C'est ce que veut dire Messie. L'onction, c'est celui qui est oint. Le Messie, c'est celui qui est loin, qui est le oint, qui a l'onction du Saint-Esprit. « Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa splendeur. » Eh bien, ce matin, le Seigneur est présent dans ce lieu, on l'a loué, on l'a adoré, on n'adore pas un mur, hein. On n'adore pas une salle, on n'adore pas nos musiciens, mais on adore Dieu, en esprit et en vérité, comme le dit sa parole. Et il est présent au milieu de nous pour libérer, pour nous tirer de notre prison, pour nous affranchir du péché, de ses conséquences, des asservissements qui peuvent exister et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et nous avons bien ce matin l'occasion de nous approcher de celui qui veut pardonner nos péchés, changer de fond en comble notre vie, celui qui veut nettoyer notre vie, qui veut donner aussi à notre vie, nous donner à notre personne une identité, des certitudes et remplir le but pour lequel nous avons été créés, pour lequel nous vivons. Il veut nettoyer notre vie, notre cœur, en le purifiant par son précieux sang. Il veut nous libérer des conséquences éternelles du péché, c'est-à-dire cette condamnation éternelle à l'enfer, loin de la face de Dieu, dans des tourments dont il est dit qu'ils sont au siècle des siècles, c'est-à-dire pour l'éternité. Ne perdons pas l'occasion de nous tourner vers Jésus. Ne gâchons pas l'occasion, l'opportunité que nous avons de nous tourner vers lui. mais venons vers notre Créateur, notre Sauveur qui nous a rachetés et a donné sa vie en rançon. Ce matin, je pense avoir annoncé tout l'Évangile tel qu'il doit être. C'est-à-dire que, passez ce lieu là-bas, passez la barre du seuil de la porte, vous êtes responsable. La Bible dit « la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ». Et ce qu'on croit vient aussi de ce qu'on entend, vient de ce qu'on a reçu. Et celui ou celle qui franchit la barre de ce lieu en ne faisant pas la paix avec Dieu prend ses responsabilités. Quelques minutes avant, la personne qui est entrée dans ce lieu n'est pas forcément en connaissance de l'Évangile. C'est pour ça qu'il est dit « comment entendront-ils si personne ne prêche ? Comment croiront-ils si on ne leur annonce pas l'Évangile ?» Mais dès lors qu'il est annoncé et de manière pleine et entière, où tout est dedans, nous partons de ce lieu responsable. Nous sommes responsables, je veux dire, devant Dieu, de la manière dont nous allons vivre. Si nous vivons sans Jésus, eh bien, il ne faudra pas blâmer Dieu pour ce qui peut nous arriver en dehors de lui. Et en même temps, eh bien, si nous prenons la responsabilité, par contre, de nous attacher au Seigneur, alors là, nous avons tout gagné. L'apôtre Paul, qui avait une position sociale, une position religieuse même, dira, après avoir rencontré le Christ, qu'il considère tout ce qu'il avait auparavant comme de la boue pour gagner Christ. Christ, c'est plus que tout. Christ, c'est l'éternité avec Dieu. Christ, c'est le bonheur éternel. Christ, c'est au-delà de toute mesure. Ça ne peut pas être mesuré. Christ, c'est l'amour de Dieu envers nous. Christ, c'est tout ce que Dieu veut nous donner. Et si nous perdons ça, nous avons tout perdu. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui, dit la parole de Dieu.